Bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Amos chapitre 3 verset 7, s'il vous plaît. Je pense que vous connaissez tous ce verset puisque ça fait maintenant des mois que toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes d'eschatologues l'utilisent, n'est-ce pas, pour justifier ce qu'ils racontent. Je vous le lis, Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Juste un peu avant, c'est écrit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu une grande révolution dans tous les domaines. Et j'ai pensé à une chose qui m'est arrivée quand j'étais gosse dans mon petit village, dans mon beau village de Chèvres, en Suisse, quand j'allais à l'école. Ma mère, un jour, est allée trouver l'institutrice et lui dit « Mais comment ça se fait, mon fils Michel arrive toujours très en retard soit à la maison pour faire ses devoirs. » Et Madame Bugnon, Mademoiselle Bugnon, qui était mon institutrice, m'a dit « Oh ben je le vois depuis mon balcon. » Alors c'est simple, quand il rentre de l'école, il est avec ses copains, ses copines, et puis alors il fait trois pas en avant et deux en arrière. Voilà, c'est une expression qui m'est restée gravée dans la mémoire, ce truc-là, Michel fait trois pas en avant et deux en arrière. Voilà pourquoi j'arrivais toujours en retard à la maison. Ça n'allait pas très vite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que fait, en fait, notre société humaine depuis les années 50. On a fait trois pas en avant dans la science, dans la connaissance des choses religieuses aussi, dans les systèmes sociaux. Et puis, nous sommes arrivés au moment, depuis quelque temps, où nous sommes en train de faire deux pas en arrière. Vous savez pourquoi on appelle l'époque de la Renaissance la Renaissance? Eh bien, c'est parce que depuis l'effondrement de l'Empire romain en 476, après Jésus-Christ, sous l'invasion des barbares, eh bien nous avons dû attendre, enfin l'humanité a dû attendre 1000 ans pour pouvoir renaître, pour pouvoir vivre la Renaissance. La Renaissance a repris, n'est-ce pas, là exactement où la médecine, la technologie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature, tout ça, ça s'était arrêté. Là, on appelait ça la Renaissance. Voilà pourquoi. 1000 ans. Maintenant, nous sommes en train de régresser de nouveau. Les choses s'accélèrent. Vous savez, la Bible dit que c'est comme une femme qui est enceinte. Il y a des contractions. Les contractions sont de moins en moins espacées. Maintenant, là, on va voir ce qui va se passer. Nous sommes en train de régresser et ça va aller si loin que Jésus va être obligé d'enlever son épouse, pas son église, son épouse. Il y a des gens de l'église qui ne seront pas enlevés, qui sont des bons chrétiens, tout ce que vous voulez, mais ils ne seront pas enlevés. Ils sont toujours des élus, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu de la grande tribulation. Et alors, il faudra de nouveau 1000 ans pour que tout se remette en marche. Parce qu'après la grande tribulation, Jésus va revenir pour régner 1000 ans. Cela, c'est ce que le monde ignore. Et nous le savons par les prophètes bibliques. Et Jésus, nous savons qu'en ce moment, il rétablit les choses dans son église, et que c'est le moment d'entrer dans ce rétablissement, comme Noé a dû rentrer, n'est-ce pas, dans l'arche, comme Lot a dû sortir de Sodome et Gomorre. Je voudrais prier pour vous qui m'écoutez. Jésus, je te prie pour mes auditeurs, pour ceux qui sont en train d'écouter ce message, et je te demande de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église. Merci mon Dieu. Amen. Quand Jésus est venu la première fois sur cette terre, c'était Dieu qui s'est incarné, eh bien, il est arrivé dans un monde en crise qui était plongé dans la violence, dans la bêtise et dans la peur. Et il a donné son enseignement. Et les apôtres ont écrit ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Ils ont transcrit les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus. Et cet enseignement a changé les mentalités de ceux qui l'ont entendu. Et surtout de ceux qui l'ont mis en pratique. Jésus a informé les humains au sujet de leur ignorance. Dieu l'avait déjà dit, je vais vous annoncer quelque chose que vous ne connaissez pas et tout. Et Jésus leur a fait découvrir qu'il y avait un monde au-delà de ce qu'ils pouvaient appréhender par leurs cinq sens, un monde spirituel, un monde de l'esprit, avec des lois qui pouvaient nous rendre capables d'agir sur la matière, faire des choses extraordinaires. Ressusciter des morts, marcher sur l'eau, multiplier la nourriture, guérir les aveugles, les paralytiques, faire marcher. Vous voyez, Paul et les autres apôtres savaient que des imposteurs prendraient le pouvoir au bout de quelque temps. Et aujourd'hui, eh ben, c'est l'imposture qui est la norme. Il y a juste un petit reste qui attend le retour de Jésus réellement. Alors, quel choix nous avons? Eh bien, plusieurs. Est-ce qu'on doit céder à la peur avant que, devant les événements qui nous dépassent en ce moment? Non, il ne faut pas céder à la peur. Mais nous ne devons pas vivre dans l'espoir que les choses, que la vie redeviendra entre guillemets normal comme avant. Non, pas du tout. Nous devons prendre les choses en main avec foi et être aux ordres du roi des rois, nous demander ce qu'il faut faire dans la prière, dans la sanctification, dans un esprit de sacrifice et d'intelligence. Parce que mes frères et sœurs, jusqu'à notre enlèvement, nous sommes en guerre, nous sommes déjà en guerre. Et dans cette guerre, nous n'avons pas le droit de nous tromper de maître. Or, notre maître Jésus ne donne pas ses ordres, ne met pas dans la confidence n'importe qui, d'où le texte de Amos 3, 7, c'est-à-dire prophète. Mais un prophète, il est d'abord façonné, mis à l'épreuve, par le feu, par toutes sortes de choses. Et il est équipé, et ensuite il est reconnu, on voit, on sait que c'est un prophète, parce que ce qu'il dit arrive. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? C'est une personne qui est appelée par Dieu, selon l'ordre établi dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a imposition des mains de la part de l'Église, ça ne se fait pas sauvagement dans la Nouvelle Alliance. C'est une personne qui est appelée par Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui a des messages de Dieu. Le prophète, il reçoit les commandements de la part du Seigneur pour le moment, pour le temps, il reçoit des prophéties, des révélations, et il a pour responsabilité de faire connaître la vérité, et aussi la vraie personnalité de Dieu. Le prophète, il dénonce le péché, il prédit les conséquences aussi, et en fait, c'est un prédicateur de justice, comme Noé était un prédicateur de justice d'un prophète. Il peut aussi prédire occasionnellement l'avenir pour le profit de l'Église et aussi pour l'humanité, mais ça c'est occasionnel. Les gens pensent prophète, diseur de bonne aventure. Non, c'est pas ça un prophète. Il peut le faire, mais c'est pas ça son message principal. Il est là pour dire ce que Dieu a à dire. Sa responsabilité numéro un, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Le grand problème, c'est que la grande majorité des terriens ne s'engagent jamais auprès des prophètes de Dieu. une infime minorité s'engage avec les faux prophètes. Quand je dis une infime minorité, je veux dire, voilà, quelques milliers de personnes, mais c'est rien du tout. C'est à comparer des milliards qui sont sur cette terre. Et le reste, ceux qui sont fidèles et qui écoutent les vrais prophètes, eh bien, c'est un petit troupeau qui passe complètement inaperçu ou qui est persécuté. Et parce que les gens préfèrent attendre sans rien faire. C'est ça ce qui se passe dans ce monde. Alors il arrive que ceux qui parlent de la part du Seigneur soient découragés. À quoi bon leur parler, puisque les gens ne veulent pas changer de mentalité, ne veulent pas se repentir, ne veulent pas se convertir, ils veulent s'assurer une place personnelle. Moi, personnellement, Michel Janton, j'en suis au point où je continue, malgré tout, à servir Dieu. Voilà pourquoi les terriens évoluent de façon cyclique. Ça se répète, l'histoire se répète tout le temps. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Puis de nouveau 3 pas en avant et encore 2 en arrière, etc., etc. Mais nous continuerons jusqu'à l'enlèvement. Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné la connaissance et le pouvoir de communiquer cette connaissance, alors nous allons continuer, même si c'est difficile, même si on n'est pas compris, même si on n'est pas cru. C'est pas grave. Nous avons compris qu'au moment de l'enlèvement, nous serons changés. Ça ne sera pas difficile à Dieu, parce que en réalité, il nous a créés de façon absolument admirable. En fait, nous sommes, si vous voulez, en gros, des grains infimes de matière séparés par du vide. Et nous sommes essentiellement constitués de vide, c'est-à-dire de l'énergie qui relie ces grains. Hein, vous avez entendu parler des atomes et tout ça. Cette énergie, c'est la vie. C'est Jésus lui-même. Jésus est la vie et c'est lui qui fait que nous sommes des humains et pas autre chose. Parce que tous les atomes dont nous sommes faits, bien, ce sont les mêmes atomes dont sont faits l'ordinateur qui est devant vous, ou le livre qui est à côté de vous, ou votre chat, là. C'est simplement l'énergie qui sépare ces grains qui est différente, qui fait que vous êtes un être humain. En fait, nous sommes l'idée de Dieu et nous croyons être un tel ou un tel, et on se croit unique, et Dieu nous laisse croire ça, que nous sommes ce que nous voulons croire que nous sommes, il nous laisse. Mais les gens, en fait, sont prisonniers de l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes. Comme on dit, ils persistent et ils signent. Jésus est venu pour nous enseigner que nous pouvons être plus. Sur le plan purement humain, nous avons le pouvoir de dire non à ce que le monde appelle l'évolution, qui en réalité n'est qu'une dégénérescence. Et si vous vous mettez à croire, non pas seulement à l'existence de Jésus-Christ, mais aussi à son enseignement et à sa puissance, alors vous avez le pouvoir de remettre en question vos croyances paralysantes. Parce que croire quelque chose, vous pouvez croire toute votre vie. Si ça vient de vous, ça ne s'accomplira jamais. Si vous osez imaginer, comme Éphésiens 3:20 vous l'enseigne, parce que vous êtes dans l'onction de Dieu, parce que vous avez été choisi par Dieu et parce que vous suivez Dieu fidèlement, alors vous pouvez commencer à entrevoir la possibilité de devenir plus que simplement vous. Si vous croyez dans l'enseignement de Jésus-Christ, vous allez comprendre que votre corps fait de grains et de vie, d'énergie, que votre corps n'est qu'un support de départ. Une individualité limitée, capable de s'élargir à l'infini pour englober tout et pour être englobé en tout. Tout ça pour dire que ce n'est pas difficile pour Dieu de vous enlever, de vous changer, de vous faire disparaître, de vous changer. Ça donne le vertige quand on y pense. Mais cessez de vous réfugier dans l'étroite prison, plus ou moins rassurante, de votre corps, de votre chair. C'est vrai que vous êtes un être humain, mais nous avons encore un peu de temps ici-bas, c'est vrai, encore un peu de temps. Alors appelez de toute votre énergie la venue de Jésus qui changera tout cela. Dans l'Apocalypse, dans les derniers versets, c'est écrit « L'Esprit et l'Épouse, pas l'Église, hein. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Si vous ne dites pas « Viens Seigneur Jésus », c'est que vous ne désirez pas son retour, vous n'aimez pas son retour, vous n'aimez pas sa venue. Est-ce que vous en êtes au point de soupirer après sa venue? Je voudrais vous lire 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. C'est Paul qui parle et qui dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ben oui, parce que sans la loi, on ne connaîtrait pas le péché. C'est parce que Dieu dit, il ne faut pas faire ça, que si on le fait, ça devient un péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul nous dit que c'est un mystère. Nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. C'est-à-dire que nous soyons morts, réduits en poussière, lorsque Jésus reviendra pour enlever son épouse, ou que nous soyons encore vivants, eh bien nous serons tous changés. Les morts, leur corps sera reconstitué, même si la poussière en a été dispersée par l'eau, le vent, ce que vous voulez. Et puis et sera reconstitué nouveau, différent, glorieux, incorruptible. Rien de plus facile pour Dieu. Cela, il le fera dans un clin d'œil à la dernière trompette. Et Paul reprend ce qu'il a dit aux Corinthiens, il le reprend pour l'expliquer aux Thessaloniciens, il parle de la même chose, Thessaloniciens 4, 13, 18. Et voilà ce qu'il leur dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, parce que c'est un mystère, hein, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qu'ils sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Voyez encore l'histoire de la trompette. Eh bien, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, consolez-vous. Parce que, il y a besoin d'être consolé. avec toutes les vacheries que l'Église nous fait, toutes les vacheries que le monde nous fait, les mauvais esprits et tout ça, on a besoin d'être consolé. Ici, Paul parle du même événement que dans 1 Corinthiens 15, 58. Il parle de l'avènement à la dernière trompette. Et après cela, les sept coupes d'Apocalypse seront versées sur la terre. Voilà la chronologie. C'est-à-dire la coupe de la colère. Et nous ne sommes pas réservés pour la colère. On sera enlevés avant la colère. Nous ne serons pas là pour la colère, pour les sept coupes qui seront déversées sur la terre. Parce que nous ne sommes pas réservés pour la colère de Dieu qui va être déversée là. Cependant, l'Église connaît déjà les prémices de la grande tribulation. Et puis l'épouse qui est cachée dans l'Église aussi, évidemment. Les douleurs ont déjà commencé depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, mais Jésus dit que c'est que le début, que c'est le commencement. On va relire, nous savons ça parce que nous avons compris ça à cause d'une parole que le prophète William Branham a donnée au sujet de notre époque, et on va la lire. Il a dit au sujet de ce qui est écrit, de ce que je vais vous lire, il a dit cela, c'est pour nous, c'est pour notre génération. Quelque chose était dans un livre qui était cacheté, et quand le quatrième sceau a été cassé, eh bien le livre a pu s'ouvrir, c'est-à-dire que les livres c'était des rouleaux à l'époque. Hein. Et voilà ce qui concerne notre temps, ça se trouve dans Matthieu 24, 9 à 14. D'abord il y a le verset 8 qui termine ce qui était écrit dans le livre fermé par le troisième sceau, où Jésus dit, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a déjà pas mal de choses qui vont se passer, des douleurs. Puis ensuite, c'est écrit, alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est premièrement les Juifs, mais aussi les chrétiens. Alors, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça, on peut dire que c'est en bonne voie. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ça aussi c'est en bonne voie, vous en avez des énormes, vous en avez des minables, et ils séduiront beaucoup de gens. Les minables, ils ne séduisent pas grand monde, hein. Mais enfin bon, ils séduisent quand même, ils séduisent ceux qui peuvent. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et au verset 15, il dit que l'Antichrist apparaîtra, donc, l'abomination qui s'assiera dans le temple à Jérusalem. Donc nous serons enlevés avant que l'Antichrist ne paraisse et ne s'assoie dans le temple. Mais il y aura quand même des gens chrétiens, des élus de Dieu, qui seront là, puisqu'il dit que ces temps de l'Antichrist seront abrégés, parce qu'ils seront tellement terribles, que s'ils n'étaient pas abrégés, personne ne pourrait être sauvé. Et il y a des élus qui sont là, il y a des élus qui vivent là, parce qu'ils n'ont pas été enlevés, tout simplement. C'était des gens de l'Église, c'était des gens aussi qui venaient écouter de temps en temps les messages sur Révélation Bible. Eh bien, eux, ils verront l'Antichrist malgré tout, quand même, parce qu'ils n'auront pas été enlevés. Et puis, il y aura aussi toutes sortes de gens qui découvriront, parce qu'ils chercheront, ils seront dans le malheur, et chercheront sur les sites Internet, et ils trouveront mes messages et les messages d'autres serviteurs de Dieu fidèles, parce qu'il n'y a quand même pas que des clowns, et des foulingues, et des malades mentaux sur Internet, hein. Et puis alors là, ils comprendront, ils sont minces, ils comprendront ce qui arrive. Le problème, c'est qu'il y en a qui écoutent déjà maintenant, qui comprennent, mais qui ne veulent rien faire. Vous savez, je disais tout à l'heure, ils veulent simplement attendre. On va attendre encore un peu. On verra bien comment ça va se goupiller. C'est simplement parce qu'ils ne font pas confiance aux serviteurs de Dieu. Mais il arrivera un temps, ce sera trop tard, malheureusement, ils écouteront. Et ça leur fera quand même du bien, ils pourront se consoler avec ces paroles. Alors ne vous y trompez pas, ceux qui doivent être enlevés verront les prémices de la grande tribulation. On trouve ça dans Apocalypse 6, 7, 8, qui concerne le quatrième sceau. Le quatrième sceau, je vous rappelle que c'est Matthieu 24, 9 à 14. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée au prophète William Branham, et nous croyons que c'est vrai, et tout concorde bien. C'est écrit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Alors Jean monte, regarde, il dit, je regardais, voici, parut un cheval de couleur pâle. Celui qu'il montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Donc, nous sommes là en ce moment. Nous en sommes là en ce moment. Et bien ça, c'est déjà le début de la grande tribulation. Si vous ne me croyez pas parce que vous êtes simplement bien installé au volant de votre voiture de luxe en train de m'écouter ou dans votre salon super confortable et bien chauffé, prenez donc un billet d'avion et allez voir dans les pays musulmans et vous allez me dire si la grande tribulation n'a pas commencé pour les chrétiens. Alors, Claude Inierski annonce que Jésus va revenir avant ce lundi-ci, c'est-à-dire le lundi, avant le lundi, je crois que c'est le 24, il doit revenir avant. Ça, c'est Claude Inierski. J'étais déjà trompé deux, trois fois. Mais il le dit, il y a encore des gens qui le croient. C'est fou ce que j'aime bien croire ces choses-là, ces gens-là. Jésus, voilà, doit revenir, c'est ce qu'il dit. Avant, donc à la fin de cette semaine. Vous voyez, on est vendredi soir, encore demain, puis voilà, peut-être dimanche. Moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi je ne crois pas à ça? À cause de ce que la Bible dit, et aussi à cause de ce que le prophète majeur de notre époque a annoncé, William Branham. Et c'est William Branham qui a mis en ordre la parole de Dieu des âges de l'Église, chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, ensuite des sceaux que vous trouvez dans l'Apocalypse, qui vont en concordance avec Matthieu 24. C'est lui qui a mis en ordre. Si on ne croit pas ça, eh ben on est à côté. On est à côté. Et c'est très facile d'être à côté. Si vous allez écouter des prédications sur l'enlèvement, vous avez des gens qui prennent la Bible et qui vous prouvent par A plus B que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Et puis vous en avez d'autres qui disent « Non, non, ce sera avant. » Eh ben moi, je dis « Ce sera pendant. » Mais l'Antichrist n'est pas encore arrivé. La grande tribulation, elle ne s'installe pas du jour au lendemain. Il y a les prémices de tout ça. Et ça devient de plus en plus grave. Et on s'y habitue. Je n'écoute pas, enfin plus, les eschatologues, parce qu'eux, ils font des approximations intéressantes souvent. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais rien ne vaut la parole d'un prophète. Quand nous écoutons un prophète qui est confirmé par des signes et des miracles réels, parce qu'un prophète, s'il n'est pas accompagné par des signes et des miracles réels, s'il n'a pas fait marcher quelques paralytiques, s'il n'a pas guéri quelques aveugles, s'il n'a pas ressuscité quelques morts, voilà. Non, non, il faut qu'il soit accompagné par des signes évidents. Alors, quand on écoute un tel prophète, nous entrons dans la pensée de Dieu. Et notre pensée et la sienne ne font plus qu'une. Et nous pouvons percevoir qu'il nous suffit de croire que nous sommes plus que cette enveloppe de peau. Souvenez-vous de ce que je vous disais au sujet des cycles. Deux grands cycles de peste. Vous rappelez, je vous disais ça il y a quelques temps en arrière, quelques jours, je crois que c'était dimanche, ou vendredi passé. Deux guerres mondiales ensuite. Suite à la Première Guerre mondiale, il y a eu à peu près 20 ans de paix en France. Pourquoi ce temps? Eh bien, tout simplement pour laisser le temps nécessaire pour faire paraître une nouvelle génération qui était complètement ignorante des ravages de cette Première Guerre. Et voilà, puis ça a recommencé. Après la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a de nouveau eu 20 ans à peu près qui se sont passés. Et puis ça a pété de nouveau en 68. Hein. Et cette révolution de 68, qui est partie de France, elle est devenue mondiale. Et là, on est prêt pour une guerre civile, suivie d'une troisième guerre mondiale, suivie de peste, selon Apocalypse 6-8. C'est-à-dire, sous le quatrième sceau, il doit y avoir tout ça. Et nous sommes encore là. Pourquoi la peste de nouveau ? Vous allez me dire, mais maintenant il y a du vaccin, maintenant c'est fini, ça c'est terminé. Eh bien, mes frères et sœurs, pourquoi la peste est simple ? Parce qu'il y a à l'heure actuelle, d'après des études qui ont été faites, mais c'est très difficile de les faire, parce que dans le monde des rats, ça grouille pas mal, il y a 8 milliards d'humains sur la Terre et 24 milliards de rats. Et on n'a que... Les chats, ils sont juste 10 fois plus nombreux que nous. Vous saviez ça ? Alors, ils peuvent nous protéger un petit peu, mais pas suffisamment. Parce que c'est les rats qui sont porteurs de peste. Pourquoi les rats se manifestent comme ça ? Ben, quand ils vont voir le carnage, tout le désordre, le chaos, les horreurs, les morts qui traînent partout, eh bien, les rats vont sortir. Ils vont se régaler suite à la Troisième Guerre mondiale et ils vont contaminer et faire mourir un quart de la Terre. Tout cela, la Bible dit, par la guerre, la peste et les animaux sauvages. Apocalypse 6, 7, 9. C'est une logique imparable. Vous voyez, Jésus avait dit, n'est-ce pas ? Et quand il y a eu la première peste, ils n'ont pas fait la relation, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas compris. La deuxième non plus. Maintenant, je pense que ce sera trop tard. Et l'Église ne sera pas enlevée tout de suite. Nous assisterons à une partie de tout cela. Nous ne serons enlevés que lorsque ça deviendra trop extrême. Mais toutes ces choses ne seront pas encore les 7 coupes de la colère de Dieu. Là, ça va être grave de chez grave. Là, ça sera vraiment épouvantable. Ceux qui resteront crieront au rocher de leur tomber dessus. Ils voudront mourir. La mort ne viendra pas les chercher. Voilà. Je voulais vous le dire à vous, frères et sœurs de la communauté. Et puis à vous qui venez sur Révélation Bible. Et puis à vous qui m'écouterait une fois que l'enlèvement aura eu lieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire alors ? Acheter des chats ? Au moins pour vous protéger de la peste, vous mourrez d'autre chose. Ne pas prendre le signe de la bête sur vous. Mais c'est quoi le signe de la bête ? C'est la puce ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la religion mondiale qui va s'installer là, avec pour chef suprême l'Antichrist, qui va se proclamer Dieu et qui fera des miracles bien plus grands que ceux d'Osborne, bien plus grands que ceux de Branham, bien plus grands que les miens. Et il séduira plein de gens. Faites attention. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire actuellement ou qu'est-ce qu'il faudra faire quand ça sera le moment... Après l'enlèvement, ben écrivez-moi et je vous le répéterai encore. Je vous parlerai régulièrement de cela dans mes prédications parce que c'est le message de notre temps. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est en train de se produire. Ça n'est pas un message facile. Ça n'est pas un message qui rend populaire. Mais tant pis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce soit vrai. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs qui écoutent et de leur donner de faire ta volonté, d'écouter ta voix, de faire ta volonté pour le temps présent, sans discuter. Au nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen.